saison au théâtre. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
1, 2, 3, 4.
Voici quelques semaines, nous recevions une pétition regrettant l'absence de femmes candidates à la direction du Théâtre National Populaire de Villeurbanne. La vingtaine de prétendants déclarés fin 2018 était en effet uniquement masculine. Question, si les femmes n'ont pas postulé, est-ce parce qu'on les a dissuadées de le faire ou parce qu'elles n'ont tout simplement pas osé? Des femmes directrices de théâtre, il en existe pourtant. Elles assument leurs responsabilités et exercent leurs tâches d'une manière dont les hommes pourraient ou devraient s'inspirer, car le pouvoir entre les mains d'une femme, c'est parfois plus de transversalité, d'horizontalité et de solidarité. Virginie Bocard vient d'être nommée à la scène nationale du Mans après avoir passé 10 ans aux manettes des scènes du Jura. Sandrine Mini dirige depuis 2017 la scène nationale de Sète et du Bassin de Thau. Toutes deux sont nos invitées et c'est avec elles que nous allons tenter de comprendre comment être femme et directrice conduit à repenser le fonctionnement de l'institution culturelle. C'est donc à sa lettre G comme gouvernance que nous ouvrons aujourd'hui en compagnie de Sandrine Mini et Virginie Bocard, notre encyclopédie en mouvement du théâtre qui se dirigera dans ces dernières minutes vers la scène nationale de Sénart. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
Ah ! Maudite soit cette Lucrèce Borgia ! Vous dites qu'elle m'aime, cette femme, et bien tant mieux, que ce soit son châtiment, elle me fait horreur. Oui, elle me fait horreur. Tu sais, mafieux, cela est toujours ainsi. Il n'y a pas moyen d'être indifférent pour une femme qui nous aime. Il faut l'aimer ou la haïr. Mais comment aimer celle-là? Il arrive aussi que plus on est persécuté par l'amour de ces sortes de femmes, plus on les hait. Celle-ci m'obsède, me hante. Depuis cette nuit, vous m'avez dit son nom d'une façon si éclatante. Vous ne sauriez croire à quel point la pensée de cette femme m'est odieuse. Autrefois, je ne voyais Lucrèce Borgia que de loin, à travers mille intervalles, comme le spectre de tout le monde. Maintenant, ce spectre est mon spectre, à moi. Il vient s'asseoir à mon chevet, il m'aime, ce spectre.
Bonjour Virginie Bocard.
Bonjour.
Bonjour Sandrine Mini.
Bonjour.
Vous êtes toutes deux directrices de théâtre, directrices de scène nationale. Je ne pense pas que vous soyez pour autant des Lucrèce Borgia en puissance dans cet extrait de la pièce de Victor Hugo qu'on vient d'entendre qui date de 1948. On entend bien hein, l'effroi que suscite chez les hommes cette figure d'une femme au pouvoir et dont Victor Hugo a dépeint les traits d'une manière totalement abominable puisque c'était un tyran sanguinaire. Le regard des hommes sur les femmes qui occupent des postes à responsabilité a bien évidemment et fort heureux changé. Pour autant, a-t-il, selon vous, suffisamment changé? Je veux dire, est-ce qu'on persiste à voir dans une femme directrice un succès d'année de Lucrèce Borgia avec tous les clichés qui lui colleraient à la peau et ce cliché bien connu qui est celui de l'hystérie? Virginie Bocard.
Alors, le cliché de l'hystérie, écoutez, je pense pas avoir souffert de ce cliché-là ces dernières années. En tout cas, évidemment, quand on est nommé, j'ai été nommé il y a 10 ans, scène du Jura. Une des premières questions, c'est comment vous avez fait pour être nommée directrice à 35 ans. Donc là, moi, je le prends avec beaucoup d'humour. Au départ, j'étais un peu désemparée, donc je sortais mon CV et j'avais presque envie de lire mon dossier pour affirmer ma légitimité. Aujourd'hui, j'en ris, parfois un peu amèrement, mais je me sens totalement à ma place et j'ai pas envie de justifier sur justifier. Je suis là, je travaille, j'ai une direction, je conduis un projet et tout va bien pour moi.
Voilà. Sandrine Mini.
En effet, cette question que soulève Virginie de comment vous êtes arrivée là, c'est quelque chose qu'on entend énormément. Alors moi, sur scène, j'ai beaucoup ri en leur disant, bah écoutez, il y en était 71 candidats. Voilà, j'en ai trucidé
70
parce que c'est une vie très italienne, donc j'ai joué un petit peu de ça. Non, mais je le dis avec beaucoup d'humour, mais en effet, je leur dis, écoutez, le secret, tout ça, c'est le travail. Moi, tout au long de ma carrière, alors j'ai été nommée beaucoup moins jeune que Virginie, puis j'ai un trajet, en tout cas un parcours un peu différent, je viens d'un autre endroit au tout départ, mais c'est vrai que cette question du travail, je leur ai dit, et en général, on travaille plus que les messieurs pour y arriver. en fait. C'est
alors,
le secret.
Vous avez, l'une et l'autre, j'imagine, entendu parler de la pétition que j'évoquais en ouverture de cette émission face à l'absence de femmes qui postulaient au TNP de Villeurbanne. Le ministère a décalé la date de dépôt des candidatures. Et aujourd'hui, il y a deux femmes qui sont sur ce qu'on appelle la shortlist, c'est-à-dire les derniers candidats en lice. Il s'agit de Séverine Chevrier et Élise Vigier. J'aimerais savoir ce que vous a inspiré cette absence préalable de femmes, zéro femme sur la quasi-vingtaine de candidatures au départ. Et comment vous l'analysez, cette absence? Est-ce que, selon vous, elle est volontaire ou est-ce qu'elle est subie? Sandrine Mini.
Moi, je pense qu'il y a une question de légitimité. C'est-à-dire que les femmes ne se sentent pas encore suffisamment légitimes à se positionner sur ce genre de poste, enfin, me semble-t-il. Et ça vient d'une forme de conditionnement où ça vient déjà d'elles-mêmes, hein, en se disant, on va candidater, mais de toute façon, on ne sera pas retenu sur une maison telle que celle du TNP.
Qui est une grosse maison.
Qui est une grosse maison. Et pourquoi elles ne seront pas retenues? C'est parce que depuis des années, on ne leur a pas donné les rênes de maisons suffisamment grandes, de maisons de création, j'entends, pour qu'elles puissent être légitimes à se candidater à ce type de poste. Et c'est là qu'est le problème, en fait, parce que si tout simplement, au lieu d'avoir mis depuis une dizaine d'années à arriver sur ces postes-là, on était là depuis 20, 30, voire plus, on n'aurait pas cette question-là, en fait, en face de nous aujourd'hui. Et devoir annuler un recrutement, en tout cas relancer un appel à candidature parce qu'aucune femme ne s'est trouvée légitime à candidater, je trouve ça grave à notre époque.
Donc il y aurait presque une forme d'autocensure qui agirait encore, Virginie Bocard.
Je le pense. Je pense aussi que ça pose la question de des organisations, de nos théâtres, parce que a-t-on vraiment envie de diriger un établissement comme il est organisé actuellement? Quels sont nos moyens pour définir d'autres façons de travailler? Par exemple, dans d'autres théâtres aussi, et je pense que Sandrine aussi, tu as des coups de fil, se poser la question de prendre une direction aujourd'hui. Aujourd'hui, se pose la question de comment faire quand on est une femme, qu'on a fait le choix aussi d'avoir des enfants, de conjuguer une vie professionnelle à une vie personnelle. Et pour ça, ça nécessite que nos maisons se questionnent sur le partage du travail, des délégations aussi sur la programmation. Dernièrement, il y a eu un article d'un collègue qui disait ce n'est pas le tout programmateur, comment on fait nos repérages de spectacles et comment nous-mêmes, à nos places de directrice, nous sommes capables de déléguer, de partager, d'avoir un autre rapport au temps dans cette société où tout s'accélère. Donc je crois qu'il y a ces questions-là de légitimité, oui, mais d'organisation de nos maisons.
Qui est le corollaire? On va revenir sur cette question de la délégation que vous soulevez, Virginie Bocard, mais je voudrais vous faire écouter une première archive dans cette émission, première dans l'ordre chronologique et à mon sens première aussi dans l'ordre symbolique. Je parle de Simone de Beauvoir.
Finalement, on a le pouvoir pour en faire la même chose qu'en font les hommes. À la mesure où nous rejetons cette société, il ne faut pas naturellement vouloir du pouvoir sous cette forme-là, mais très souvent aussi, cette attitude est une espèce d'alibi pour les femmes qui restent, malgré qu'elles en aient, tout un état féministe, enfermées dans un certain schéma de passivité et qui trouvent que, bon, sous prétexte qu'il ne faut pas faire comme les hommes, alors il y en a beaucoup qui pensent qu'il ne faut rien faire du tout. Et ça, je trouve ça regrettable aussi. C'est-à-dire qu'à mon avis, les femmes doivent faire tout ce qu'elles peuvent dans tous les domaines pour à la fois s'accomplir et pour être en mesure d'aider les autres, mais que ce soit toujours avec l'idée que c'est justement pour aider les autres et pas pour accaparer soi-même pouvoir ou célébrité ou tous les noms qu'on voudra donner à ça. Mais l'idée de refus absolu de toute action, de toute entreprise, ou parce que ça ressemble à les actions des entreprises masculines, ça je suis tout à fait contre.
Vous, qu'est-ce que vous pensez des femmes qui se lancent dans la politique, je veux dire, du côté de la droite, hein?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ça ne sert à rien qu'une femme soit ministre si elle est dans les mains d'un système qui, de toute façon, barra son action. On a bien vu que Françoise Giroud n'a rien pu faire. Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme soit et du pouvoir. Je me rappelle justement que Françoise Giroud s'était félicitée parce que, je ne sais plus comment s'appelle, cette infecte anglaise conservatrice qui avait eu un poste de ministre important. Elle disait, de toute façon, c'est une femme qui a le pouvoir, donc c'est bien. Ben, je ne suis pas du tout d'accord. Si une femme a le pouvoir que lui donnent des hommes, et dans un système que je récuse, ça ne m'intéresse pas du tout.
Alors, elle parle très vite, hein, Simone de Beauvoir. Il n'y a pas un souffle de doute qui traverse ses propos, ce qui explique aussi sa rapidité. Mais je voudrais quand même vous soumettre ce qu'elle dit. Si on prend le pouvoir pour reproduire le système des hommes, ce n'est pas la peine d'y aller. Qu'est-ce que vous en dites, l'une et l'autre?
Moi, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'on a quelque chose à emmener de différent, que moi, je revendique depuis longtemps. Je suis en direction de théâtre depuis, en effet, maintenant 4-5 ans. Et j'étais auparavant en direction de projet plutôt dans le monde muséal. Donc, depuis que j'ai une trentaine d'années, je dirige des équipes. Et je n'ai jamais failli à cette idée que je devais rester moi et continuer à croire en un modèle qui m'est propre, qui est celui de la coopération avec les équipes, du partage des tâches, des missions, du pouvoir même, hein,
avoir un vrai partage, un vrai endroit de co-construction du projet avec les équipes. Et le fait que les équipes se l'approprient pleinement, ça nous aide à le porter, parce qu'en effet, ce sont des maisons lourdes à porter. Il faut à la fois qu'on soit de bonnes gestionnaires, qu'on soit de bonnes programmatrices, de bonnes gestion RH, c'est très très important. Toute
ressources
la partie
humaines.
RH, ressources humaines dans ces maisons est assez essentielle. Et une ouverture au monde, je pense, un peu différente aussi. Moi, dans la question de la délégation, j'ai mis en place, par exemple, un membre de l'équipe, qui est un homme, en l'occurrence, qui m'a dit, moi, ok, j'intègre l'équipe, mais il me faut une journée de télétravail par semaine. Alors, il ne la fait pas toujours tout à fait comme ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de poser. Et j'ai tout à fait adhéré à ce modèle, parce qu'en fait, je crois qu'aujourd'hui, pour avoir des collaborateurs épanouis, qui soient heureux d'être là le matin, qui arrivent avec la banane, c'est aussi notre capacité à les rendre vraiment vivants dans nos maisons. C'est souvent d'ailleurs des maisons, moi, ce qui m'a toujours un peu étonnée, mais je pense que tu le partages avec moi, c'est qu'on est censé faire rêver le public, on est censé donner du bonheur aux gens, les faire se questionner, et on a souvent des mal-être assez colossaux dans ces maisons de culture ou ces maisons de théâtre. Et ça, moi, ça me questionne beaucoup. C'est-à-dire que comment peut-on rendre heureux les autres si nous-mêmes, on a des équipes qui sont en grande souffrance? Moi, c'est ce que j'ai trouvé à mon arrivée, beaucoup de souffrance dans cette maison. Et ça a été le premier truc à régler. Comment on fait pour prendre en compte la souffrance des collaborateurs, faire en sorte qu'elle passe, construire ensemble et aller vers du bien-être au travail?
Virginie Bocker. Pour compléter, je dirais que effectivement, on est là pour inventer un nouveau modèle. Enfin, le paysage change depuis quelques années. Après, on peut être une femme et être dans des attitudes complètement virilistes avec des modèles aussi patriarcaux. Enfin, je pense qu'il faut aussi faire attention qu'il n'y a pas une direction qui soit genrée. Des hommes, des femmes, c'est une façon d'être en fait au monde. Et en tout cas, on voit qu'on est, en tout cas nous, parce que nous sommes des femmes, mais on essaye de faire autrement, différemment, en faisant effectivement en sorte que on soit à la juste place et en partage avec les uns, les unes, les autres dans nos équipes. Donc c'est une façon de faire, un nouveau chemin qui
c'est
s'invente.
C'est générationnel d'ailleurs.
Je pense que c'est
n'est pas seulement juste du ressort du féminin, c'est sans doute aussi du ressort générationnel, mais c'est quand même intéressant, et je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi est-ce que l'horizontalité, la transversalité, la mutualisation effraierait sans doute moins les femmes que les hommes qui sont plus pour un fonctionnement vertical ou pyramidal?
Je sais pas si ça, parce que nous avons aussi des collègues qui sont directeurs, qui sont aussi dans des façons de diriger des maisons, qui sont aussi dans le partage et dans l'échange et de façon horizontale. On peut être une femme et vouloir mettre sur la table ce qu'on n'a pas. Enfin, c'est vraiment une façon d'être aux autres et une façon d'être en rapport avec le monde. Et par contre, en tant que femme, ce que je peux dire, c'est que la notion de sororité sur comment on développe des coopérations, nous, directrices, comment on travaille ensemble, comment on peut aussi se donner des tuyaux. Enfin, ça, c'est cette question-là, c'est comment aujourd'hui une femme directrice dans l'organisation qui est la nôtre, qu'est-ce qu'on invente? Qu'est-ce qu'on met en place pour les déplacements sur la délégation du temps de travail? On a des enfants, on fait comment? Est-ce qu'on se déplace tous les jours? Est-ce qu'on est un bon professionnel si on va au spectacle tous les soirs et si on reste avec les équipes artistiques jusqu'à 2h du matin et qu'on fait toutes les after? Non,
question subsidiaire, est-ce que ça vous entraîne à vous poser la question, est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que vous vous la posez cette question? Ce qui ne veut pas dire que vous devez vous la poser, hein. Je me garde bien de faire ce pas-là que je n'ai pas du tout envie de faire, mais est-ce qu'elle vous vient en tête?
Est-ce qu'on a une bonne mère? Je crois qu'il ne faut pas qu'on le soit totalement, mais en tout cas, c'est comment, moi en tant que femme, qui ai fait le choix d'avoir des enfants et de postuler à une direction et diriger des maisons, comment j'organise et comment je conjugue tout ça, ces agencements-là. Et ça veut dire que je me base sur le projet artistique et culturel que j'ai envie de développer. Et c'est par ce projet artistique et culturel que je fais des choix et que je priorise et qui fait que je suis pas au spectacle tous les soirs et que j'ai du temps aussi pour moi, pour penser, réfléchir et être avec les êtres qui me sont chers et mes enfants.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Seconde voix qui entre dans cette émission, elle va entrer en deux temps, vous allez comprendre pourquoi, c'est la voix de Françoise Giroux. La voici qui parle, nous sommes en
1949.
Moi, je ne faisais pas de journalisme avant la guerre. Je sais que dans les journaux féminins, il y a des hommes. Je crois qu'il y a plus de femmes dans les journaux, comme il y a plus de femmes dans la pharmacie, ou comme il y a plus de femmes dans
la médecine,
au palais. Enfin, ça, c'est simplement cet épouvantable avènement du règne des femmes.
Une progression sociologique normale.
Pourquoi vous trouvez ça épouvantable?
Parce que je trouve que les femmes qui travaillent sont généralement déformées physiquement et moralement.
Bon, on va laisser en 1949 ce qui est de 1949. Chacun a le droit de changer d'avis. Et Françoise Giroud, heureusement, a nettement changé d'avis sur la question. On la retrouve, fort heureusement, en 1970.
Vous savez, les rapports des femmes avec le pouvoir n'est pas le même que le rapport des hommes, pour des raisons évidentes. Et le rapport des femmes avec les hommes qui sont au pouvoir me fait toujours penser à ce qui se passe quand des femmes entrent par hasard dans le vestiaire où se trouvent des sportifs. Ils sont très malheureux. Eh bien, c'est un peu ça. Ils sont malheureux de voir des femmes. Cela dit, ils sont polis, courtois, aimables, un peu gênés. Voilà. J'ai eu alors une chance de base, c'est de faire des métiers où on peut montrer très vite ce que l'on sait faire.
C'est vrai.
Et dans ce type de métier, le journalisme ou le cinéma, la discrimination à l'égard des femmes est forcément beaucoup moins grande. Un bon article, c'est un bon article. Un bon journaliste, c'est un bon journaliste. Un bon scénariste aussi. Là où les choses deviennent très compliquées, c'est quand il s'agit d'avoir des postes à responsabilité, comme on dit. C'est là que les femmes sont vraiment handicapées. Alors, quand on a eu déjà l'occasion de montrer qu'on sait écrire, travailler, c'est plus facile. Et puis, j'ai commencé par diriger un journal de femmes. Ça ne gênait personne du moment que c'était des femmes.
Ah oui, c'était normal. Oui, d'accord.
J'ai eu beaucoup d'éléments.
Mais l'Express, c'était moins normal.
L'Express, c'était moins normal. Et là, vraiment, j'ai eu de la chance. L'Express, c'était très dur.
Lorsque je dirigeais un journal de femmes, dit Françoise Giroud, ça ne gênait personne. Une fois que j'ai été directrice de l'Express, ça devenait beaucoup plus compliqué. Je voudrais revenir vers cette histoire du Théâtre National Populaire de Villeurbanne, mais on pourrait étendre le cas Villeurbanne à d'autres grands lieux et à des grands festivals, et voir si le parallèle résiste. Lorsqu'on dirige une scène nationale, vous êtes actuellement 13 directrices sur les 74 scènes nationales qui composent le territoire. Il y a un peu plus de parité à la direction des centres dramatiques nationaux qui sont dirigés par des directrices qui doivent être en plus des artistes. Est-ce que ça pose problème aussi pour ces raisons-là, la direction des grands lieux, parce que plus de visibilité, parce que plus de retentissement? Sandrine Mini.
Je pense qu'il y a des enjeux aussi. On oublie peut-être aussi qu'on a un métier extrêmement politique. En fait, on est en lien avec beaucoup d'élus, on est en lien avec beaucoup de responsables politiques. Alors, paradoxalement, moi qui suis dans une ville du Sud, on pourrait imaginer que dans le Sud, forcément, le fait d'être une femme, on va plus vous jauger, etc., vous juger aussi. C'est pas forcément le cas, parce que j'ai la chance d'être dans une ville, Sète, qui est une ville avec une forte culture italienne, où la place de la femme est très importante, en fait, dans l'inconscient en tout cas. Et du coup, il y a un grand respect envers ce que je fais, le travail que je mène. Mais c'est vrai que ce rapport étroit aux politiques de nos lieux, et les scènes nationales sont des lieux politiques, hein, je crois qu'on le vit au quotidien, l'une et l'autre régulièrement, fait que c'est peut-être ça qui nous met cette pression, et qui fait qu'il faut toujours prouver qu'on est à la hauteur, ou en tout cas régulièrement affirmer des choses. Moi, ce que je peux peut-être quand même noter dans tout ça, c'est qu'on nous fait parfois peser des choses, en tout cas ça a été le cas moi dans mon poste précédent. Si on avait été un homme, on ne nous aurait ni parlé comme ça, ni traité de telle manière. Et ça, il y a encore un énorme travail à faire. Je crois que c'est probablement de l'ordre de l'inconscient de ces politiques. Moi, j'étais en banlieue Est à Lyon, avec vraiment des politiques complexes, mais où si j'avais été un homme, j'aurais mis un coup d'arrêt, ou en tout cas, j'aurais pu les cantonner, ou les mettre dans un corner, et j'aurais pu les bloquer. Et le fait d'avoir été cette femme que je suis, pour le coup, ne m'a pas protégée. Mmh. Malgré mon intelligence, malgré le projet de qualité que j'avais développé. C'est là où on peut se dire que, voilà, on a encore un petit peu de travail.
La philosophe et historienne du féminisme, Geneviève Fraisse, a plusieurs fois affirmé que la parité n'était pas une fin en soi, mais était un outil au service de l'égalité. Est-ce que vous trouvez que cet outil est opérationnel? Est-ce que vous trouvez qu'il fait son travail? C'est-à-dire que ça avance, que ça progresse? C'est pas seulement quantitatif, hein, mais qualitativement.
Alors, on est 23 femmes directrices de scène nationale.
Qu'est-ce que j'ai dit?
13.
Ah, pardon.
Et donc, c'est quand même une progression. je crois qu'en tout cas, pour réagir, le sexisme est bien ancré dans nos milieux. Et encore, on voit quand on est nommé. Dernièrement, j'ai un collègue qui me dit « Tu as été nommé à la scène nationale du Mans. J'ai bien fait de postuler parce que si j'avais postulé, j'aurais travaillé, mais je l'aurais pas eu parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des femmes qui ont des postes. » Je trouve ça quand même assez gonflé, voire méprisant. Donc, quelle attitude avoir à ça ? Quoi répondre ? Parce que c'est quand même la remise en question totale de nos compétences professionnelles et donc toujours ce besoin de se justifier. Néanmoins, on est là, donc je lui ai rappelé que de toute façon, pour arriver à la parité dont vous parlez, il y a encore 14 directions de scène nationale à prendre. Donc s'il se met dans cette attitude-là, faudra qu'il attende encore un certain nombre d'années pour pouvoir postuler, puisque si je suis nommée, c'est seulement parce que je suis une femme. Donc on dit ça et en même temps, est-ce que c'est bien utile de le dire ? Je crois que le fait d'arriver à cette parité, qu'on arrive de plus en plus, ça permet aussi de définir des lignes éditoriales qui posent la question des minorités dans notre société. Donc des minorités qui sont des femmes, mais aussi d'autres minorités. Les personnes qui sont, qu'on ne voit pas. Et donc, dans la ligne éditoriale que j'ai développée, j'ai beaucoup questionné le féminisme et les féminismes, et avec des autrices associées au projet, qui permettent aussi de faire avancer les choses. Donc peut-être en ayant des femmes à la direction de nos théâtres, les artistes femmes seront beaucoup plus visibles, moins marginalisées et moins infantilisées. Donc c'est ainsi que je vois aussi les bienfaits de cette parité.
Alors, il y a ce qu'on fait, ce qu'on produit, ce qu'on met en œuvre quand on est aux manettes, aux responsabilités, et il y a comment on est. Et là, je voudrais qu'on fasse un petit détour par la philosophe Elisabeth Badinter, qui a écrit une étude sur Marie-Thérèse d'Autriche, impératrice, laquelle l'a entraînée à réfléchir sur le pouvoir au féminin. Je voudrais qu'on écoute Elisabeth Badinter.
Je pense que la représentation des femmes, et c'est l'image qu'elle donne d'elle, c'est une sorte de neutralité sexuelle. Marie-Thérèse n'hésitait pas à se servir de l'image de la féminité, de la maternité pour imposer son pouvoir et faire de ce que l'on considérait comme une faiblesse en vérité une force politique. Aujourd'hui, les femmes politiques ont adopté un style de neutralité où il n'est pas question de montrer ni la moindre émotion, ni la moindre larme, ni de la moindre compassion, quand l'objectif d'abord, comme un homme.
Alors, qu'en dites-vous,
Sandrine Mignot, Virginie Bocard? Non, Virginie Bocard. Je suis ce que je suis. Je sais que parfois on voudrait me contenir, mais je me neutralise pas, quoi. Je suis ce que je suis. Et après, on fait avec. Et je crois que c'est tout l'enjeu dans nos sociétés, c'est de faire avec les uns et avec les autres. Donc parfois, je me dis « Oups !» Et en même temps, je travaille et on travaille et ça avance.
Il y a beaucoup de respect des équipes parce qu'en effet, on a quand même à certains endroits de nos équipes, notamment je pense aux équipes techniques, essentiellement des populations masculines en face de nous. Voilà, moi, à la fin du démontage, je passe saluer tout le monde au plateau. Bon courage les gars, voilà, j'ai pas besoin de hausser la voix, d'en faire des caisses, il y a du respect.
Vous m'aviez dit, dans un autre moment, vous m'aviez dit, Sandrine Mignot, que vous n'aviez pas besoin de montrer vos muscles.
Que je n'ai pas par ailleurs, mais, mais c'est vrai, ça m'intéresse même pas, j'ai envie de dire, et moi, mon autorité, par contre, on n'est pas ni dans la cogestion, ni dans, voilà, j'ai ma ligne.
Vous restez la directrice.
Je reste la directrice avec toutes les responsabilités, et puis voilà, et si je me plante, c'est ma seule responsabilité et uniquement la mienne. Là-dessus, il n'y a aucun problème. En revanche, c'est vrai que j'ai envie qu'on puisse faire ce chemin d'une autre manière, quoi, réellement, c'est-à-dire ce qu'on est, c'est-à-dire, moi, je parle assez doucement, alors souvent, j'amplifie quand on est dans des grandes salles, ça, j'ai pas besoin d'être dans d'une... Après, je succède à un modèle qui était totalement à l'opposé. Alors peut-être qu'en effet, j'ai eu besoin, en tout cas j'ai ressenti de la part des équipes cette nécessité de cette douceur et d'une forme de quelque chose qui les englobe et qui les rassure. Mais pour autant, je les sens très à côté de moi dans le projet, dans la rapidité du projet, dans une forme de grande énergie. Et tout ça dans beaucoup de respect. Moi, c'est ça qui... Mais je pense que le respect, c'est à nous de l'imposer par celui qu'on porte nous-mêmes à nos collaborateurs. aspects de la vie, de ce qu'on parlait, des vies personnelles aussi, du fait qu'on est dans des métiers extrêmement chronophages, avec de très gros horaires. Moi, je crois qu'à part l'hôtellerie-restauration, je connais assez peu d'autres métiers où on commence aussitôt le matin pour finir aussi tard le soir. Et que cette attention qu'on se doit d'avoir à la santé, au travail, au bien-être avec nos collaborateurs, c'est un plus pour nous et pour, enfin, dans le rapport à l'équipe, quoi, réellement. Parce que sans les hommes et les femmes de nos théâtres, on va nulle part. Hein. C'est vraiment on s'appuie énormément sur eux. Donc, il faut cette attention de chaque instant. Mais je ne suis pas leur mère non plus. Hein.
La devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Moi, je retiens un mot dans ce que vous avez dit, qui est le mot sororité. Et je le trouve très intéressant parce que peut-être que dans sororité se cache tout un arsenal de pensées, de méthodes, de processus, de conscient et d'inconscient qui va engager, entraîner quelque chose derrière, politiquement pour le coup, qui est complètement différente. Et la fraternité dans un monde patriarcal dans lequel nous vivons, qui connaît peut-être une fin de règne, on a vu qu'elle ne produisait pas toujours les effets qu'elle est censée produire. Alors peut-être qu'il faut mettre en œuvre une forme de sororité à partir de maintenant et que les hommes aussi peuvent la mettre en œuvre s'ils ne le font pas déjà. Et certains le font déjà.
Je crois que c'est là que ça se situe en fait, hein, cette sororité, cette façon bienveillante de travailler ensemble et en complémentarité et en résonance les uns avec les autres. Et c'est ce que tu dis aussi sur le fait qu'on est, on travaille tous avec des amplitudes horaires extrêmement importantes, sur aussi ce qu'on veut dire dans nos maisons et comment on le dit. C'est cette façon d'être en bienveillance et en travail tous ensemble. Ça a l'air de rien de le dire, mais c'est extrêmement important et ça déconstruit effectivement un certain héritage patriarcal qui fait que les choses étaient imposées par une certaine verticalité, qu'il n'y avait peut-être pas de règles et qu'on était là au service d'un projet, mais on ne savait pas vraiment le sens du projet. Donc c'est comment on partage un sens collectif et avec bienveillance pour avancer les uns et avec les autres dans le respect de chacun.
J'ai une putain de vue ce soir de ma chambre, je vois la ville en bas. Toujours la même histoire, prédateur embusqué sur les toits. Je suis putain de seul, putain de bleu, j'ai une putain d'envie de toi. Je sais ce qu'ils veulent et je joue le jeu, j'ai une putain de carrière devant moi.
La bienveillance, en fait, c'est ça qui aurait dû être le véritable intitulé de notre encyclopédie en mouvement du théâtre. Merci beaucoup à toutes les deux d'être passées nous voir dans une saison au théâtre. Sandrine Mini, vous reprenez la route pour 7, où vous dirigez donc la scène nationale. Virginie Bocard, encore quelques jours aux scènes du Jura. Et puis, vous partez pour Le Mans, où vous venez de vous installer à la tête de la scène nationale. Quant à nous, nous prenons la direction d'une autre scène nationale, celle de Sénart, où nous attend au téléphone le responsable Jean-Michel Puif, qui nous parle des résidences d'artistes qui se déroule dans ces murs.
C'est une chance pour chacune des maisons qui ont la chance comme ça d'avoir des artistes qui sont dans le quotidien. Pourquoi très simplement, je vais prendre une formule, c'est simplement qu'on prête un lieu d'accueil avec des gens qui arrivent à J-2, qui jouent, qui repartent. Avoir quelqu'un avec qui on tisse une quotidienneté et quelques fraternités comme ça à rêver des projets ensemble, c'est une façon incroyable d'habiter déjà la maison et de proposer des tas de rendez-vous qu'on ne pourrait pas. Quand les artistes sont dans les logiques de tournée, ils ont peu de temps à pouvoir consacrer à du développement de public, à inventer d'autres formes ou tester d'autres choses. Avoir le temps et pouvoir s'inscrire comme ça dans des séquences différentes, c'est pouvoir inventer des niveaux de réponse, des sollicitations, d'autres propositions pour convoquer du public à un autre moment, quoi, une autre relation. Voilà.
Et j'imagine que ça remet aussi du sens pour les équipes qui travaillent avec vous, parce que j'entends dans vos propos, Jean-Michel Puif, une certaine frustration quand vous dites, quand on a des équipes qui arrivent à J-2, ils font le spectacle et puis après ils repartent tout de suite derrière. Finalement, c'est réduire l'équipe de la scène nationale à un rôle de chef de gare.
Je suis un peu sévère, parce que bien évidemment, d'abord, beaucoup de scènes nationales font des séries, donc des fois les inscriptions sont quand même heureusement
un petit peu plus longues.
Et c'est quand même à l'échelle souvent d'une semaine. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de frustrant parce que ça va trop vite et le temps et l'économie et les économies de projet font qu'il y a cette brutalité comme ça d'apparaître, disparaître très rapidement. C'est sûr que quand on a la chance comme ça de voisiner comme ça avec des artistes, bien évidemment il y a d'autres projets qui naissent, il y a d'autres natures de relations qui s'inventent. Pour parler crûment, ça fout un joyeux bazar dans nos baraques. Enfin, Patrick est un personnage magnifique, généreux et haut en couleur. Je vous jure que dans l'équipe, c'est plutôt, ils sont assez réjouis quand ils reviennent tourner. Il vient un peu secouer les plumes du grand bâtiment.
pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre. Chouchane, Djergaillan, Anthony Thomasson, Vanessa Nadjar, Joël Gaillou vous salue. Bientôt 16h sur France Culture, c'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.
Les écrans.